Chaque jour, à la même heure, nous vous apportons les informations que votre censure vous cache.
La privatisation de la chambre.
J'ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Le plaisir qu'on trouve à voyager dans sa chambre est à l'abri de la jalousie inquiète des hommes. Il est indépendant de la fortune.
Signé Xavier de Maistre, celui-ci peut faire figure de perdant de l'histoire quand il publie en 1794 son voyage autour de ma chambre. Encore un peu de temps et la Savoie, l'état qu'il sert, va être balayé. Oui, mais le monde qui change dès lors qu'il est vu de la fenêtre de sa chambre est comme apprivoisé. Et la porte, une fois refermée, peut déjouer les curiosités des pouvoirs les plus puissants. La Renaissance avait multiplié les murs et les cloisons. Le XVIIIe siècle fait du secret une revendication légitime. C'est la chambre conjugale qui, dans les milieux privilégiés, a été privatisée la première. Chez Balzac, c'est chose faite. Chez Stendhal, la chambre de madame doit encore être distincte de celle de monsieur. Autrement, Julien Sorel ne pourrait y pénétrer nuitamment, toujours par la fenêtre d'ailleurs. Souvent, la chambre de madame communique aussi avec celle des enfants. La chambre des enfants est plus tard venue. La privatisation des chambres s'impose maintenant assez généralement et la structure apparente de la chambre change moins ces derniers siècles, moins en tout cas que celle de la cuisine ou de la salle de bain. Le lit, pourtant, ne tient plus autant de rôle. Au temps de Xavier de Maistre, il était le berceau, le trône de l'amour et le sépulcre. Aujourd'hui, il est devenu rare qu'on y naisse ou qu'on y meure.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Michel Perrault, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Grande productrice historique de Radio France, aussi combien d'années au lundi de l'histoire chez la petite sœur de France Culture ?
24 ans.
24 ans, c'est pas mal aussi. Alors Michel Perrault, vous êtes très connu pour vos travaux d'histoire sociale, d'histoire des femmes, d'histoire des prisons. De plus en plus, l'expérience venant, vous dites « je » en histoire, vous vous engagez personnellement.
Oui, je pense que je représente une tendance générale de l'histoire. C'est vrai que l'historien était rentré beaucoup dans les coulisses, n'en sortait pas. Et maintenant, il ose aller jusqu'à la porte de la chambre, justement.
Et rappeler ses souvenirs personnels. La grand-mère Clémence, la chambre de la grand-mère Clémence.
La chambre de grand-mère Clémence était un lieu d'accumulation. Il y avait des petits meubles, pas très nombreux d'ailleurs, mais beaucoup de fioles, beaucoup de sacs avec des tricots commencés, pas toujours finis, des parfums aussi qui se croisaient dans cette chambre. C'était une chambre, oui, étrange et qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance.
Alors, vous êtes une de nos historiennes les plus généreuses, les plus modestes aussi. Donc, le livre que vous avez publié il y a quelques années, dont vous donnez une édition illustrée, ce qu'on appelle un beau livre, l'expression est exacte dans ce cas précis, ce titre modestement, Histoire de chambre et pas Histoire des chambres. Et nous, on va être encore modeste davantage puisque nous n'allons parler que du 18e, du 19e et un peu du 20e siècle, alors qu'il faudrait commencer l'histoire de la privatisation des chambres à la Renaissance. Si vous le voulez bien, 18e siècle, année 1730, le roi Louis XV, vous aimez bien le roi Louis XV ?
J'aime le roi Louis XV parce que c'est un homme original et qui a rompu véritablement avec le décorum de la cour, ô combien. Et bon, il n'est peut-être pas recommandable à tous égards et notamment pour la gestion de l'État, mais il avait un sens de la vie privée, justement, qui m'intéresse beaucoup.
Et il congédie, en effet, tout le cérémonial lié à son arrière-grand-père.
Je meurs de froid toutes les nuits dans mon lit. Mes os sont glacés. Faites en sorte de nous réchauffer au plus vite en construisant une deuxième cheminée, monsieur l'architecte.
Sire, cette chambre est l'œuvre de votre arrière-grand-père. De la transformer à la défigurer, il n'y a que la distance qui sépare la parole d'un crime que je n'oserais commettre.
Je ne supporte plus !
Il m'insupporte de dormir dans cette chambre ouverte à tous les courants d'air et je ne supporte plus non plus les obligations d'étiquette qui y sont attachées. Veillez à ce que l'on m'installe dès ce soir un lit dans une pièce disposant d'un poêle. Quant à vous, monsieur Gabriel, Il nous plairait que vous accéléreriez les travaux d'aménagement de nos petits appartements.
Derrière la chambre théâtrale de Louis XIV, il y avait des coulisses que vous racontez, Michel Perrault. Derrière les coulisses, il installe les petits appartements. Le soleil noir, c'est l'expression que donne pour le désigner Thierry Binisty dans son film à Louis XV.
Oui, tout à fait. Même Louis XIV était au fond en quête d'intimité. Et quand sur certains plans, on voit deux chambres. La chambre de parade, où Louis XIV recevait pour le lever et le coucher, qui étaient de véritables cérémonies de cour. Et sur le côté, la chambre du roi. Je crois que cette distinction n'a d'ailleurs pas toujours existé, mais on a l'impression qu'au cours du règne de Louis XIV, déjà, il y avait une espèce de dédoublement et qu'on reconnaissait les deux corps du roi, le corps public et le corps privé. Et de toute façon, Louis XIV allait dans la chambre de ses favorites ou de sa femme, Madame de Maintenon, après, quand il a épousé après la mort de Marie-Thérèse. Et la chambre de Madame de Maintenon était un espace très organisé, avec un lit où il y avait des rideaux et un fauteuil pour le roi, et où le roi tenait aussi les conseils du roi. Là, Madame de Maintenon, au fond, récupérait un petit peu l'appareil d'État.
Et alors, sous Louis XV, quand même, l'aspiration au secret grandit. Le secret pour le roi. Il aime bien regarder ce qui se passe dans les alcôves de ses sujets, en revanche.
Désir de secret, pour chaque individu, la conscience individuelle progresse beaucoup au XVIIIe siècle. C'était commencé, bien sûr, depuis longtemps. Et ça revêt des formes spatiales. Avoir un espace à soi, c'est quelque chose que désirent de plus en plus de gens. Avoir un lit à soi, bien sûr, c'est le minimum. Hein, parce que souvent, les gens couchaient un petit peu les uns sur les autres, pêle-mêle, etc. Et puis, autour du lit, avoir une chambre à soi. C'est-à-dire beaucoup plus que ça. Des murs, quelque chose qui enserre le lit, qui va comprendre d'autres meubles, avec une porte, c'est très important. Dans la chambre, c'est la porte, c'est la clé. C'est la possibilité de s'enfermer, d'échapper au regard d'autrui, de se dévêtir, de quitter un petit peu ses vêtements solennels et pesants, de retrouver son propre corps et de retrouver ses rêves, sa pensée, ses livres, ses amours aussi.
Mais dans la chambre conjugale, dont vous dites qu'elle se formalise définitivement en France dans la première moitié du XIXe siècle, c'est pas seulement le droit à l'intimité, c'est aussi un pari sur la durée du couple qu'on fait.
Bien sûr, l'Église, depuis le Moyen-Âge, avait sacralisé le mariage. Le mariage était vraiment un pilier de la société et c'était pour l'éternité. Alors, la chambre va avec, en quelque sorte, quand on peut se procurer naturellement cet espace-là. Les couples, sautons par-dessus le temps, au XIXe siècle, un jeune couple qui se marie va choisir le mobilier de la chambre à coucher. Et ce mobilier accompagnera le couple, en principe, jusqu'à sa mort. Oui, il y a ce pari sur l'éternité.
Alors, lit commun matrimonial, ou bien, c'est une question que se pose dès 1829 Balzac, lit jumeau.
Comment franchirez-vous le détroit qui sépare le Groenland de l'Italie ? L'espace qui se trouve entre le paradis et l'enfer n'est pas plus immense que la ligne qui empêche vos deux lits de n'en faire qu'un seul, car votre femme est froide et vous êtes livré à toute l'ardeur d'un désir. Ne pas deviner les désirs d'une femme, ronfler quand elle veille, être en Sibérie quand elle est sous le tropique, voilà les moindres inconvénients des lits jumeaux. Que ne hasardera pas une femme passionnée quand elle aura reconnu que son mari a le sommeil dur? C'est au lit seulement qu'il peut savoir chaque nuit si l'amour de sa femme croît ou décroît. Là est le baromètre conjugal. Or, coucher dans deux lits jumeaux, c'est vouloir tout ignorer.
Vous ne vous hasardez pas beaucoup, Michel Perrault, quand vous dites que les lits jumeaux appartiendraient à une tradition protestante?
Oui.
Et le lit commun matrimonial a une tradition catholique ?
Catholique et latin, absolument. Oui, 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 tout à fait. Et l'idée que le couple, c'est la fusion, hein, et ce que dit très bien Balzac d'ailleurs. Mais chez les protestants, il y a un sens de l'individu qui est beaucoup plus important, et l'acte amoureux suppose un consentement. Hein. Dans le texte de Balzac, on voit surtout l'homme et son désir. Mais dans l'éthique protestante, on suppose aussi que la femme doit avoir un désir et doit consentir à l'acte amoureux. Autrement dit, l'idée de des lits conjugaux, des lits séparés, c'est peut-être davantage une aventure de l'amour, tandis que le lit latin, c'est davantage le devoir conjugal.
À quelle tradition, je fais un saut dans le temps, rattacher le système de lits jumeaux un peu particulier que Mauriac avait installé à Malagar?
Alors ça, c'est compliqué, parce que je ne pense pas du tout que c'était la tradition protestante.
C'était comment ces lits?
C'était des lits séparés, oui. Et pour se rencontrer, chaque lit glissait, un lit glissait sur des espèces de glissières, en quelque sorte.
Pour les rapprochements éventuels,
que visiblement Mauriac ne souhaitait pas constamment. Il n'était pas certainement partisan du lit à la Balzac. Il avait d'autres amours, peut-être.
Je vous laisse la responsabilité de vos propos, Michel Perrault. Le lit national, comme on dit dans une entreprise à laquelle on souhaite longue vie et qui est sise non loin de la maison de Radio France, c'est le nom d'une entreprise, le lit national. C'est un lit, alors avec un sommier. À partir de quand le sommier apparaît-il? À partir de quand le sommier se distingue-t-il du sol?
Il se généralise au 19e, le sommier. Hein. Il existe avant, mais... Pour le sommier avec en fer, enfin avec des petites particules fines, ça vient de d'usines qui les ont fabriquées en grand. Et à ce moment-là, il y a eu une diffusion du sommier en fer.
Et puis ça permet de balayer
et
en dessous.
Ça permet, voilà, exactement, ça permet de surélever, de balayer en dessous. Et puis de toute façon, songez au conte de Grimm, la princesse au petit pois. Hein. Pour bien coucher, il faut qu'il y ait plusieurs épaisseurs. Les lits d'autrefois étaient beaucoup plus hauts, d'ailleurs, que les lits de maintenant. Tout simplement parce que, justement, par la multiplication des matelas, on cherchait à créer un espèce de sommier. Il fallait que le sommeil soit doux.
Quand vous parlez de la chambre de votre grand-mère Clémence, vous la décrivez comme surchargée. En même temps, il y a un mobilier standardisé qui peut un peu s'impose pour la chambre conjugale. Les deux tables de chevet, avec le pot de chambre dans chacune, la commode, l'armoire et le lit.
Oui, quelques sièges tout de même, hein, de moins en moins nombreux, mais on y met beaucoup d'objets sur la table et sur la cheminée surtout. La cheminée est un espèce d'autel sur lequel on met, par exemple, les petits objets qu'on a rapportés de voyage, on est très heureux d'avoir ces souvenirs, et les photos, à partir du moment où il y a des photos, c'est-à-dire le milieu du 19e, les photos de ceux qu'on aime, on ne va pas les exposer dans le salon, qui est beaucoup trop public, on va les mettre sur la cheminée. Il y a, au XXe siècle alors, Jean Guéhenno décrit sa chambre, une chambre populaire dans un appartement très populaire, et il montre combien cette cheminée était surchargée d'objets.
Pourvu que la cheminée nationale puisse survivre, elle aussi. Michel Perrault, vous parlez de Guéhenno et des milieux populaires, il est temps qu'on entende un témoignage qui vienne des milieux populaires, c'est celui de Jacoule Croquant, mais oui, dans le film de Stello Lorenzi. Et nous avons opéré un rapprochement peut-être hasardeux avec, à la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, selon Raoul Ruiz. Il s'agit maintenant de la chambre d'enfant.
Mais qu'est-ce que tu fais là, petit?
C'était un curé et j'ai prouvé ta méfiance.
Je cherche du travail.
Tu es seul? Où sont tes parents?
Mon père et ma mère sont morts.
Mon pauvre petit, viens avec moi. Comment t'appelles-tu?
Jacou.
Jacou. Tu couches là. C'était pas bien grand, mais tu sens bien.
Une chambre avec un vrai lit. Je n'avais encore jamais vu ça.
Ben, assieds-toi, c'est ton lit.
Un lit. Pour moi tout seul. Je ne pouvais y croire. Et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me sentis presque heureux.
Toute la journée, je la passais dans ma chambre, qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée, les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil, et la forêt de mes églises. Je ne regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais, c'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre, jusqu'au moment où, dans le vaste tableau verdoyant, je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre, simplement parce qu'il était plus loin, le clocher.
Et à Combray, les pommiers normands se reflètent dans le jeu des rideaux et donnent des formes d'estampes japonaises sur le papier peint des murs.
Oui, c'est très bien ce rapprochement des deux enfants. L'enfant pauvre qui n'a jamais eu de chambre. Un lit, même un lit à moi, une chambre à moi. Ça, en effet, c'est très récent pour les enfants des classes populaires et même pour les pauvres. Jean Valjean, souvenez-vous, dans Les Misérables, qui, quand il a enfin un lit à lui, quel bonheur, enfin, en quelque sorte. Et puis, le petit enfant, Proust, enfant, longtemps je me suis couché de bonne heure. Chacun sait que la recherche du temps perdu commence par la chambre d'enfant et par la scène de la chambre d'enfant. Et Proust est un des grands écrivains de la chambre. Il en décrit de très nombreuses. Pour lui, c'était très important. Non seulement il y dormait, mais il y rêvait et il écrivait. Et on peut dire qu'il y a une véritable anthologie de la chambre à travers la recherche du temps perdu.
La chambre d'hôtel au papier jauni, et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'ai su les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver et dans ce décor banal à pleurer. C'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins. Remplis de soleil, on les a couchés, unis et tranquilles dans un lit creusé. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal. Que ça me fait mal.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Michel Perrault qui donne une nouvelle édition de son histoire de chambre, une équipe d'iconographes conduite par Nathalie Beau à...
Que je salue pour son travail.
La voilure de votre livre. Et il y a une photo d'Edith Piaf en pleine page. Edith Piaf dont c'est le centenaire en 2015, le centenaire de la naissance, qui est dans une chambre d'hôtel.
Ah oui, bien sûr. Parce qu'elle allait en tournée, comme tous les artistes, et la chambre d'hôtel était son domicile, en quelque sorte. Et elle la chante très bien dans cette très belle chanson, La chambre des amants d'un jour. Et la chambre d'hôtel, elle la vit, elle la chante, elle la sent, elle la comprend, et elle nous en donne ici une très belle intuition.
Mourir dans un hôtel n'est pas recommandé.
Non. Les directeurs d'hôtels détestent cela. Et autrefois, les gens vivaient plus longtemps dans les chambres d'hôtels qu'aujourd'hui. Même des gens aisés, hein, prenaient pension longtemps. Par exemple, évidemment, sur la Côte d'Azur, on restait pendant 2-3 mois. Et quand ils voyaient arriver des gens âgés, un peu flageolants, ils se disaient « Mon Dieu, pourvu qu'ils tiennent encore cette saison !» Parce qu'autrement, comment évacuer un corps de cette chambre d'hôtel sans faire peur aux autres pensionnaires ?
Par la porte de service.
Alors, par la porte de service, bien sûr, mais enfin, quand c'est monsieur de un tel, c'est quand même un petit peu gênant. Donc c'est vrai que le corps dans la chambre d'hôtel est un problème.
Regardez Genet, qui est mort dans un hôtel médiocre.
Oui.
Où il n'était pas non plus un habitué. Et voilà qu'on veut l'évacuer par la porte de service et les journalistes de toute la presse rue sur l'entrée principale.
Bien sûr. Genet ne vivait qu'à l'hôtel, pratiquement, enfin, sauf à une certaine période de sa vie. Et pour lui, c'était à la fois commode dans son mode de vie et une espèce de forme d'ascèse aussi. Hein, au fond, ne rien avoir, ne s'attacher à rien. C'est la chambre d'hôtel est le lieu le plus simple, le plus démocratique peut-être, le moins bourgeois.
Hein. C'était de ce point de vue-là, une véritable Sartre... éthique chez quelqu'un comme Jean-Paul Sartre.
Absolument, absolument. Jean-Paul Sartre ne voulait pas avoir un appartement à lui, une maison à lui. Et dans La Nausée, son héros, Roquentin, qui est professeur, comme Sartre d'ailleurs l'a été, vit à l'hôtel et dans un hôtel près de la gare. De façon que les bruits de la gare entre dans la chambre, la pénètre, parce qu'en fait, dans cette chambre, il reste pas beaucoup, il voyage beaucoup, et la chambre est un lieu de passage, en quelque sorte.
Et ces imbéciles qui s'étonnent que Jean-Paul Sartre, alors qu'il a gagné beaucoup d'argent, ait toujours vécu modestement, les murs sont une prison.
Oui, tout à fait.
On ne peut pas ne pas parler de votre cher George Sand, qui elle aussi a vécu longtemps dans la première partie de sa vie, à l'hôtel. Ici, elle est à Venise dans un film de Diane Curis avec Alfred de Musset. Et elle écrit, comme souvent, sur son lit, les papiers sont amoncelés. Et Alfred saute sur le lit.
Les papiers !
Oh, mais quelle idée d'écrire au lit ? Est-ce que je me couche sur ton bureau, moi ?
Toi, tu te couches n'importe où.
Un nouveau roman ?
Non, toujours le même.
Je ne t'interromps pas, moi.
Non. J'allais me mettre au travail.
Ah oui, Lulose. Donnez-nous chaque jour notre chapitre quotidien.
J'ai écrit une ligne depuis 2 semaines.
Ça ne te ressemble pas. Tu devrais prendre une autre chambre. Je t'ai si mal aimé. Je suis arrivé à Genève. Je n'ai pas voulu t'écrire avant d'être sûr de moi. Je t'aime encore d'amour, Georges. Écris-moi.
Il a plu pendant 8 jours, l'eau a recouvert toutes les places. Je vis à peu près seule. Je m'enferme dans ma chambre et je m'enveloppe dans la fumée de ma pipe. Quelquefois, je me mets à rire toute seule au souvenir de nos bêtises. Et puis cela me fait pleurer. Je sais maintenant que nous nous aimerons toute la vie, mais sans fièvre et sans désespoir.
Bon, je lis Michel Perrault dans un autre de vos livres récemment paru, Les femmes rebelles, que la correspondance de Musset et de Sand a complètement été brûlée. Tant pis, là, Benoît Magimel s'adresse à Juliette Binoche.
Oui, nous sommes dans la fiction. Les amours de Sand et de Musset, grand chapitre de l'histoire littéraire, peut-être au fond moins important dans l'histoire de George Sand elle-même.
Parce que la chambre la plus importante pour George Sand, c'est quand même celle de Nohant, oui. De la maison, où elle s'installe très durablement dans les 20 ou 25 dernières années de sa vie. Elle ne part que 2 fois par an pour la capitale. C'est d'ailleurs dans la chambre au papier peint de bleu pâle, parsemé de marguerites blanches, qu'elle va s'éteindre en 1876.
Oui, et cette mort de George Sand dans cette chambre de Nohant a été racontée, comme on faisait jadis pour la mort des rois, par son médecin. Hein. Son médecin s'est installé dans cette chambre où elle mourait, en quelque sorte, pour écrire comment ça se passait. Et il nous a livré un récit de la mort de George Sand, comme une reine, au fond, hein, la reine de la littérature qu'elle était à ce moment-là. Ça n'a pas été une mort très drôle, hein, parce qu'elle a beaucoup souffert, et que à la fin, on lui donnait de la morphine. Les médecins commençaient tout de même, à lutter contre la douleur. C'est pas évident, hein, car il fallait souffrir dans ce temps-là pour mourir. Et là, l'entourage a insisté pour que les médecins l'empêchent de souffrir. Elle est morte sous morphine, en quelque sorte.
Les sévères-durs, ce sont ces derniers mots énigmatiques. Il y a beaucoup d'énigmes les illustrations et les propos de votre livre, Michel Perrault. Bon. Vous n'êtes pas pour la conservation des chambres mortuaires, vous n'êtes pas non plus tellement pour les masques mortuaires. Vous pensez que c'est dans les mémoires que se conservent les chambres.
Oui, et ça correspond à une réalité, parce que la chambre est fugitive. Les maisons le sont, certes, mais les chambres davantage encore. Elles sont des cadres où les gens vivent, et c'est par leur vie qu'ils donnent existence à la chambre. Quand ils sont partis, on disperse les meubles. Voyez, par exemple, après la mort des parents, hein, comment j'ai vidé la maison de mes parents, un beau livre de Lydia Flemme. Comment faire avec ces meubles qui ont été les témoins de l'intimité? On va les disperser, en garder quelques-uns, en vendre un certain nombre, et la chambre redevient ce qu'elle a toujours été, un espace vide pour d'autres vies.
Un des films que vous citez, et dont vous dites qu'il est le plus émouvant peut-être, c'est celui d'Agnès Varda. On va en entendre un extrait. « Quelques veuves de Noirmoutier ». Varda et Demi vivaient une partie de l'année à Noirmoutier. Et Agnès Varda, en 2006, se retrouvait veuve parmi les veuves.
Oui, moi je l'ai vu quand il a fait son malaise. Il m'a dit, bon, il a tombé paralysé, il était par terre. Il s'est vu mourir. Il avait tout son côté gauche de paralysé. Et il m'a dit, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, c'est fini. J'étais abattue, hein. C'est vrai que ça a été un choc énorme. Surtout au début, hein. Au début, c'est... Je le voyais là à tout instant, hein. C'est vrai que je me dis, mais non, c'est pas possible, il n'est pas parti, il est à côté de moi. Dans mon lit, je reste à ma place, ça je ne bouge pas, non, je ne peux pas, c'est ma place,
bien sûr.
Ben, le manque, c'est quand même la présence. Hein.
Et j'ai conservé l'oreiller de mon mari, ce qui fait que
je dors
du même côté.
Côté gauche, moi.
La trace de l'oreiller du mari. Michel Perrault.
Dans mon lit, je reste à ma place. C'est une phrase à la fois très belle et un peu terrifiante aussi, tout de même. Parce que l'idée qu'il y a une place déterminée, donnée, ça implique une espèce de fixité de la vie et du couple qui est à la fois très belle et en même temps un petit peu oppressante.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Roland Barthes? C'est bientôt le centenaire de Roland Barthes. Sa mère est morte, je crois que c'est vous qui citez cette phrase. Et il a respecté l'endroit de la chambre où sa mère était morte. Et il y met toujours des fleurs sur une table. J'en viens à ne plus vouloir voyager pour que les fleurs ne soient jamais fanées.
Oui, ça c'est le culte de la mère qu'avait Roland Barthes, qu'ont eu beaucoup d'enfants, mais qui va jusque justement respecter les rites. La place, là aussi, la place. Hein. La chambre devient comme l'autel, au fond, hein, l'autel. Il y a une espèce de sacralisation de la mère, là, qui est respectée par le rite des fleurs, toujours à la même place, et qui finit par peser un peu sur la vie de Roland Barthes, puisqu'il ne part plus en voyage pour mettre des fleurs. Et là, on trouve au fond un peu comme la métaphore ou le symbolisme de la chambre, qui est à la fois un lieu de liberté, on ferme sa porte, on est libre, on est soi, mais ça peut aussi parfois être une prison, un enfermement, une clôture, les deux. Et j'ai toujours trouvé ces deux diagonales dans l'histoire des chambres.
Merci à vous, Michel Perrault, votre histoire de chambre que publient les éditions du Seuil. L'émission a été réalisée par Stéphane Ronxin, la préparation Franck Olivard, à la technique Loïc Frapsos. Merci à vous.